Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors nous allons cette semaine retrouver Claude Sénac. Alors Claude Sénac, je reprécise, elle est née le 16 novembre 1924 à Paris et morte le 17 septembre 2017 à Sarlat-la-Canéda. Elle avait 92 ans, elle est d'origine périgordine, elle est une écrivaine de littérature jeunesse. Alors son nom d'emprunt, Sénac, est le nom d'une commune des Bordes à Dordogne, située près de la Bastide de Dôme, où, si mes souvenirs sont bons, Franck Dubosc, enfant, passait une partie de ses vacances au camping avec ses parents. Alors, elle va commencer sa carrière littéraire, donc Claude Sénac, en écrivant des nouvelles pour les quotidiens La Dépêche du Midi et Sud-Ouest. Et Castel Carabignac sera son premier roman publié en 1960 aux éditions Magnard. Alors, elle va écrire une bonne quinzaine de romans. On a vu la semaine dernière les Robestiques, il y a 4 petites histoires avec des robots. Et donc cette semaine, pour ne pas quitter un peu le sujet, nous allons voir Le Robot Sauvage par Claude Sénac. Alors, ce livre est édité par la librairie Hachette en 1986 et les illustrations sont de Jean Reschowski. Voilà. Voilà, pas très facile à dire. Voilà, donc bien sûr, il y a une quatrième de couverture à ce robot sauvage. Alors Jean-Noël et sa petite sœur Sophie, qui ne se lasse pas d'admirer l'étonnant bonhomme électrique, on dirait maintenant électronique, construit par le professeur Spot. Le robot Faber parle comme un homme, il a réponse à tout, et de plus, il a bon caractère, assure son inventeur. Seulement voilà, il aurait été préférable de ne pas le mettre en marche sans permission. Qui a bien pu commettre une pareille imprudence, Jean-Noël, Sophie ou Palumé, l'innocent. Alors, Palumé, ben, c'est un garçon qui est au service, on va le voir, du maire de la commune, qui était l'ancien médecin, voilà. Alors, quoi qu'il en soit, le mal est fait, Faber est déchaîné, comment maîtrise-t-on le robot devenu sauvage? Oui, comment va-t-on faire? Bon, il y aura bien sûr une fin, alors... Je vais faire un petit peu de lecture donc, de ce robot sauvage. Alors, l'inventeur Thomas Théodore Spot se trouve, comment je peux dire, au restaurant du village. Et donc, il propose de combiner, vient téléphoner sur le petit bar contre lequel s'était accoudé. Ses yeux bleus très clairs souriaient malicieusement, tandis que ses longs doigts caressaient sa courte barbe blanche qui encadrait son visage bronzé. J'ai intégré mon vieil ami Augustin. Alors Augustin, comme je le disais, ben c'est le médecin et qui est devenu le maire de la commune. Alors j'ai intrigué, disait-il, mais il n'est pas le seul à se poser des questions. Je vois là 4 joueurs de belote qui ont écouté toute ma conversation téléphonique sans avoir l'air et qui donneraient cher pour savoir quel genre de robot j'ai inventé. Voilà, alors... Ensuite, il se dirigea vers la petite table sur laquelle était dressé son couvert. Le patron de l'auberge s'empressa de le servir et déposa successivement devant lui une délicieuse soupe aux haricots. Alors, une soupe aux haricots en hiver, c'est excellent. Et on peut même rajouter quelques couanes, si vous en avez sous la main, c'est très bon. Alors ensuite, il y a une omelette au cèpe, évidemment, un confit de canard entouré de pommes rissolées, de la salade à l'huile de noix, du fromage, de chèvre et des fruits. Voilà. En somme, bien sûr, c'est le repas périgourdin traditionnel, même si le fromage de chèvre, les Camécous ne sont pas vraiment du pays. Voilà. Alors, bien sûr, il va demander, alors l'ami du docteur Malatré, donc l'ancien médecin et maire de la commune, c'est inutile, ma voiture est tout près de là, en face de votre porte, de l'autre côté de la route. Je la retrouverai sans peine et ensuite j'aurai la lumière de mes phares. Indiquez-moi simplement le chemin de la Perrière. Alors la Perrière, c'est un lieu dit de Sarlat, il doit y en avoir d'autres. Et une Perrière, ben, c'est un endroit, je crois, qui était couvert de pierres. Et je me débrouillerai. Alors l'aubergiste lui donna alors une foule de détails et les joueurs de belote abandonnèrent leurs cartes pour ajouter quelques précisions. Alors ça, c'est tout à fait périgourdin. il fallait tourner à droite, passer un petit pont sur le ruisseau, longer l'église, tourner à gauche, emprunter une route étroite qui montait, grimpait pendant 800 mètres environ, les uns disaient 600 mètres, les autres 1000, passer le petit carrefour, puis un second, au troisième, tourner à droite, monter encore à l'orée du bois, et c'était là. Vraiment, insistez le patron, vous ne voulez pas que je vous fasse un bout de conduite. Je veux que vous restiez au chaud, dit Thomas Théodore Spott, d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Alors, évidemment, dans la voiture, il y a un passager, donc ce fameux robot. Alors, donc il va arriver quand même à bon port. Alors, dévoré de curiosité, se précipitait tout dehors au même instant, l'auto disparaissait derrière la poste et ils ne firent qu'entrevoir ses feux de position. Ils regagnèrent donc l'intérieur de l'auberge et reprirent leur place autour du tapis de cartes. Le patron s'offrit à compter les points, mais le jeu ne les intéressait plus. Alors, pendant plus d'une heure, ils échangèrent donc les joueurs de belote, leur impression. Ils le trouvaient étrange, bizarre, même inquiétant que l'ami du docteur Malatré ait laissé quelqu'un attendre dans sa voiture. Donc, comme je disais, alors que le thermomètre descendait bien au-dessous de zéro, qui donc était l'homme chauve que le savant professeur Spott n'avait pas craint de traiter de telle façon. Pourquoi n'avait-il pas protesté? Pourquoi? Mais toutes ces questions, bien sûr, restèrent sans réponse. Alors, finalement, l'aubergiste décida qu'il valait mieux aller se coucher. Je suis à peu près certain qu'il va neiger demain, dit-il à ses clients aussi. Madame Malatré ne descendra pas elle-même faire ses commissions. Elle verra certainement Palumet. Alors, Palumet, bon, c'est un garçon un peu demeuré, bon, qui vit avec la famille, qui fait les courses, etc. Voilà. Et vous connaissez tous Palumet. Il a tellement bon cœur qu'il ne peut rien garder pour lui. Pas même un secret, il nous dira tout. Cette assurance réconforta un peu nos quatre curieux qui se séparèrent après s'être souhaité le bonsoir. Alors, bien sûr, Spott va quand même arriver à destination. Alors voilà donc, il y a un chapitre 3 qui s'intitule « Le second passager ». Alors l'automobile s'arrêtait devant la porte, juste au moment où les enfants sortaient de la maison. C'était un élégant coupé de sport à la carrosserie surbaissée d'un beau rouge sombre. Une 420 SM, c'est comme un Jean-Noël. Bon sang, elle peut monter à 200 à l'heure. Et moi qui m'attendais à voir arriver le professeur dans une vieille guimbarde. Voilà, il n'eut pas le loisir d'exprimer davantage l'admiration. Le conducteur sortait de son engin, non sans quelques difficultés, employant sa haute taille. Il n'a pas l'air aussi âgé que nous. Le pension murmura à son tour, la petite Sophie, il est aussi bien que grand-père. Alors, grand-père, évidemment, c'est Malatré, l'ancien médecin et maire de la commune. Alors le voyageur se dressait devant eux, large d'épaule et souriant dans sa barbe neigeuse, il demanda « C'est bien la Perrière ici, n'est-ce pas? Vous êtes sans doute les petits-enfants, docteur Malatré. » »« Oui, monsieur. » Le professeur tendit sa large main au garçon et embrassa la fillette sur les deux joues. « Où donc se cache votre grand-père? Me voilà, assura Augustin Malatré d'une voix joyeuse en apparaissant sur le seuil de sa maison. « Excusez-moi, mon vieux, ma femme a voulu que je mette un col. » Que je n'arrivais pas à le boutonner. Le professeur Spott prit un air horrifié, un col, et moi qui suis en pull ouvert. Je ne dis pas que tu portes aussi une cravate. Le grand-père baissa piteusement la tête. Mais si, Thomas, j'ai une cravate à poids. Alors il se passa une chose assez surprenante. Savant saisit le médecin aux épaules et tous deux se mirent à danser une gigue une sorte de gigue écossaise en vociférant. « Allez, petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Allez, petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. » Alors les enfants bouche bée observaient les deux honorables vieillards avec un certain étonnement. Mais pourquoi qualifier deux vieillards ces allaitres septuagénaires qui sautaient comme des cabris? Il n'y a plus d'ancêtre, souffra Jean-Noël d'un ton sentencieux. Enfin, le chant et la danse cessèrent et les deux amis se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre en s'assénant de grandes claques dans le dos. « Je suis heureux de te revoir, Thomas, et moi donc, Augustin. » Voilà. Donc, le contact entre amis est prêt. Alors, donc, ils vont regarder quand même de plus près le personnage qui se trouve dans la voiture. « Ce monsieur est affreusement pâle, professeur. On dirait qu'il est évanoui. Spot se met à rire. Ce monsieur est mon assistant de laboratoire, un assistant d'une espèce un peu particulière. Enfin, Faber est un robot électronique de mon invention, celui que je voulais montrer à Augustin. Un robot, s'écrièrent en même temps les quatre maladresses possibles. Ce bon passager, en effet, ne ressemblait pas le moindre du monde au robot qu'ils avaient vu au cinéma, à la télévision ou dans les expositions spécialisées. Un robot, un vrai, avait toujours la tête ronde et vissé sur les épaules comme un casque de scaphandrier. Ses yeux en forme de hublot lançaient des rayons verdâtres. Un robot, un vrai, portait une combinaison spatiale en tissu métallisé et ses mains articulées pouvaient se comparer aux gantelets de l'armure qui ornaient l'entrée de la maison des malattrés, évidemment. Alors, il va se passer quand même une chose, c'est que la petite fille un devoir de mathématiques à faire pour l'école, pour la rentrée, et les maths n'étant pas son fort, elle va demander assistance au robot. Et le robot, bien sûr, va se réveiller, il suffit d'appuyer sur un des boutons de son gilet. Alors, bien sûr, il va se réveiller et va prendre les choses en main. Alors, ça ne va pas durer très longtemps, mais enfin, quand même, il avait presque terminé son déshabillage éclair lorsque Palumé traversait la cour pour aller chercher quelques bûches dans la remise. À la vue du robot en tenue légère, Palumé s'arrêta tout net, ses yeux s'arrondirent, sa bouche s'ouvrit démesurément, ses bras pendirent comme ceux d'un chimpanzé, il resta figé sur place. Véritable statue de la stupéfaction, Faber lui décrocha un mauvais regard. Ne restez pas planté devant moi, triste spécimen. Alors, bien sûr, en sarlané, on prononce les S, on dit S sportif, etc. Voilà, alors, donc la petite fille va le mettre en route, le robot va détruire la télécommande et les choses ne vont pas se passer comme l'on voudrait. Et le maire, lui, il va partir parce qu'il recherche un indigent qui s'est évadé de l'hôpital et on le recherche quand même. On le recherche quand même pour le secourir. Alors, Faber, qui est le robot, se tenait bien droit au milieu de la pelouse, pieds nus, jambes nues, bras nus. Il s'enfonçait dans la neige jusqu'au mollet. Il était revêtu d'un extraordinaire maillot de bain à raies noires et blanches qui descendait à mi-cuisse comme ceux des coureurs cyclistes. Avec son crâne en boule de billard et sa peau couleur dandy, Faber avait l'air d'un forçat évadé qui aurait raccourci son uniforme pour s'enfuir plus vite. Ou bien il évoquait l'un de ses hardis baigneur de la belle époque qui prenait des poses avantageuses devant un appareil de photographie à souffler avant de se risquer à tremper un orteil dans l'eau. Il ne lui manquait que la moustache. Voilà. Alors, la poitrine bombée, arrogant comme un pont, il était extravagant, insolite et ridicule. Alors, malgré leur inquiétude, les quatre malattrés éclatèrent d'un rire nerveux. « Pourquoi l'as-tu affubé de cette façon, Thomas ?» demanda le grand-père Augustin, entre deux accès de rire. Parce que c'était le seul vêtement de ce genre que j'avais sous la main, un vieux maillot que je venais de retrouver au fond d'une malle dans mon grenier. Ne vous en moquez pas trop, si Faber n'était vêtu que d'un short, il absorberait encore plus de particules solaires, et pour ma part, je trouve qu'il prend bien assez de force pour cela. Alors, bien sûr, on va retrouver le fugitif de l'hôpital. Et puis, ben, ma foi, tout va un peu s'arranger. Les choses vont un peu s'arranger. Je suis tout à fait d'accord, dit timidement Sophie. Et mon frère non plus. Le professeur Spott se tourna vivement vers les deux enfants, mais déjà les autres s'exclamaient. Pas d'accord. Et pourquoi, en ce cas, avait-elle appuyé sur le bouton? Bien sûr, elle n'osait pas trop dire que c'était pour résoudre son problème de mathématiques où il était question d'une boîte de poireaux qui se vendait au marché. Voilà. Eh bien, je voulais empêcher Faber de nous faire du mal. Et le garçon prit une longue inspiration. Tout cela n'est pas très facile à expliquer. Nous allons faire comme à l'école. Nous allons choisir un exemple. Prenons par exemple une grande invention. La roue, aujourd'hui, nous nous en servons d'une multitude de roues sans même y songer, tellement cela nous semble naturel, mais il y a pourtant eu une époque où la roue n'existait pas. Pas possible, s'exclama Palumé. Palumet, comment faisait-on avancer les brouettes? Officier Palumet, en lui donnant des coups de serviette de table sur la tête, et Jean-Noël continua. Voilà, alors, ben, ma foi, je vais vous laisser découvrir la fin de ce livre, donc Le robot sauvage, par Claude Sénac, qui est paru aux éditions Bibliothèque Rose, c'est-à-dire Bibliothèque Hachette. Voilà, et à la semaine prochaine.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.